Nous assistons à une phase transitoire d'éternité. Il se passe des choses importantes, mais certaines personnes ne savent jamais voir. Des accidents surviennent. On n'était pas présent à certains épisodes. On compte sur les rapports, et les gens se ferment l'esprit. À quoi bon les rapports? L'histoire dans un bulletin d'information? Présélectionné lors d'une réunion des rédacteurs, prédigéré, enrobé de préjugés à l'excrétion? Les rapports dont on a besoin viennent rarement de ceux qui font l'histoire. Journaux intimes, mémoires et autobiographies sont des formes subjectives de plaidoyer particulier. Les archives sont encombrées de ces documents, toujours hautement suspects. Darvy Odrad. Si Tal avait remarqué l'excitation des gardes et de tous les autres quand il s'était approché de la barrière au bout de sa coursive, c'était les va-et-vient inhabituels à cette heure si matinale qui l'avaient attiré jusqu'à cette barrière. Jalanto, la souk, était passée en hâte. Il la connaissait pour avoir eu sa visite quelque temps avant, un jour où Odrad lui avait trouvé mauvaise mine. Une révérende mère de plus pour m'espionner. Ah, le bébé de Murbella. C'était la raison du remue-ménage et de la présence de cette souk. Mais qui étaient tous les autres? Jamais il n'avait vu ici tant de robes Bene Gesserit à la fois. Et pas seulement des acolytes. Les révérendes mères étaient les plus nombreuses parmi toutes les personnes qu'il voyait se hâter dans les couloirs. Elle le faisait penser à de sinistres oiseaux de proie. Puis il avait vu finalement passer une acolyte qui portait un enfant juché sur ses épaules. Que de mystère. Si seulement je disposais d'une liaison avec les systèmes de bord. Adossé à une cloison, il attendit patiemment, mais tout le monde finit par disparaître au détour d'un couloir ou derrière une porte. Il y avait des destinations dont il était à peu près sûr, mais d'autres qui demeuraient un mystère. Par le prophète sacré. La mère supérieure était également venue en personne. Il la vit franchir une large porte par laquelle la plupart des autres étaient passés. Inutile de lui demander de quoi il s'agissait la prochaine fois qu'il la verrait. Elle l'avait bel et bien pris au piège. Le prophète est ici et entre des mains Powinda. Voyant qu'il n'y avait plus personne dans les couloirs, Sital retourna dans ses appartements. Le moniteur d'identification devant sa porte clignota sur son passage, mais il se força à ne pas le regarder. Leur système d'identification, voilà la clé. Avec ce qu'il savait déjà, cette faiblesse dans les systèmes du vaisseau Ixien était une sirène qui hurlait à ses oreilles. Quand je passerai à l'action, elles ne me laisseront pas beaucoup de temps. Ce serait une tentative désespérée. Le vaisseau et ses occupants constitueraient ses otages. Tout se jouerait en quelques secondes. Qui pouvait savoir quel dispositif secret était prévu? Quelle porte cachée s'ouvrirait pour livrer passage à ces horribles femmes? Il n'osait prendre aucun risque avant d'avoir épuisé toutes les autres avenues. Particulièrement à présent, sachant que le prophète était revenu. Les sournoises sorcières, qu'ont-elles modifié d'autres dans ce vaisseau? Cette pensée le tracassait. Mes connaissances sont-elles toujours valables? La présence de Sital derrière la barrière n'avait pas échappé à Odrad, mais elle avait pour l'instant d'autres sujets de préoccupation. L'entrée en Gésine de Murbella, Odrad avait un faible pour cette ancienne expression, arrivait au moment opportun pour distraire Idaho qu'elle voulait avoir à côté d'elle pendant que Shiana s'occuperait de rétablir la mémoire du Bachar. Idaho se laissait souvent distraire par ses pensées tournées vers Murbella, et celle-ci, pour des raisons évidentes, ne pouvait pas être présente à ses côtés aujourd'hui. Odrad, cependant, ne relâchait pas sa vigilance avec lui. C'était tout de même un mentat. Elle l'avait surpris une fois de plus devant sa console. En émergeant du tube de descente qui donnait accès à son couloir, elle avait entendu le cliquettement caractéristique des relais et le bourdonnement du chant com. Immédiatement, elle avait su où le trouver. Il était d'humeur bizarre quand elle le conduisit à la salle d'observation, d'où il pourrait suivre ce qui allait se passer entre Shiana et l'enfant. C'est pour Murbella qu'il s'inquiète? Ou pour ce qu'il va voir dans un moment? La salle d'observation était longue et étroite. Une triple rangée de sièges faisait face à la baie de vision qui formait une paroi commune avec la chambre secrète où se déroulerait bientôt l'expérience. L'endroit était plongé dans une pénombre grise, due à deux minuscules brilleurs situés en hauteur derrière les fauteuils. Deux souks étaient présents, bien qu'Odrad eût des doutes sur leur efficacité éventuelle. Jalanto, la souk considérée par Idaho comme la plus qualifiée, était restée au chevet de Murbella. Cela démontre notre sollicitude, qui n'est d'ailleurs pas feinte. Des sièges pliants avaient été ajoutés le long de la paroi. En cas d'urgence, une porte pouvait s'ouvrir sur la chambre secrète. Stretchy avait amené l'enfant par un autre couloir, d'où il ne pouvait voir cette salle. Elle le fit entrer dans la petite chambre préparée selon les instructions de Murbella. Le mobilier était celui d'une chambre à coucher ordinaire, avec quelques affaires appartenant à Teg, prises dans ses appartements, ainsi que des objets qui venaient des quartiers occupés par Idaho et Murbella. L'antre d'un animal, se disait Odrad. Il y avait dans ce décor quelque chose de sordide qui venait du désordre délibéré que l'on trouvait souvent dans le logement d'Idaho. Des vêtements jetés sur le dossier d'un siège, des sandales dans un coin. La natte avait déjà servi à Murbella et Idaho pour dormir. Quand elle l'avait examiné un peu plus tôt, Odrad avait remarqué l'odeur dont elle était imprégnée. Une odeur intimement sexuelle à base de sperme et de salive. Cela contribuerait à agir sur le subconscient de Teg. C'est ici la source de nos fibres sauvages, ces fibres que nous sommes incapables de supprimer. Quelle audace de croire que nous pouvons exercer un contrôle sur elles. Mais il le faut pourtant. Tandis que Stretchy déshabillait l'enfant et le faisait étendre nu sur la natte, Odrad sentit son pouls s'accélérer. Elle avança légèrement son siège, consciente que ses compagnes Bene Gesserit imitaient son geste. « Pauvre de nous, se dit-elle. Ne sommes-nous donc devenus rien d'autre que des voyeuses ?» De telles pensées étaient nécessaires en un tel moment, mais elle se sentait diminuée en les ayant. Elle perdait quelque chose dans son immixtion. Raisonnement fort peu Bene Gesserit, mais très humain par contre. Duncan s'était plongé dans une expression d'indifférence soigneusement étudiée. Pose peu difficile à reconnaître. Trop de subjectivité dans ses pensées pour qu'il fonctionne normalement en mode mentat. Ce qui était précisément ce qu'elle attendait de lui en ce moment. Mystique de la participation. L'orgasme en tant qu'énergisant. Bay avait correctement identifié la chose. S'adressant à l'une des trois rectrices assises à côté d'elle et choisies pour leur force physique, bien qu'officiellement présentes en tant que simples observatrices, Odrad déclara « Le Gola désire, tout en le redoutant au plus haut point, que ses souvenirs antérieurs soient rétablis. C'est cela la principale barrière à lever. » Foutaise, intervint Idaho. Vous savez ce qui joue en notre faveur aujourd'hui? Sa mère était l'une de vous et elle lui a inculqué la science profonde. Quelle chance y a-t-il pour qu'elle ait négligé de le protéger contre vos imprégnatrices? Odrad se tourna vivement vers lui. Mentat? Non, il s'était simplement replongé dans son passé récent pour le revivre et se livrer à des comparaisons. Mais cette allusion aux imprégnatrices, était-ce donc ainsi que la première collision sexuelle avec Murbella avait rétabli la mémoire de toutes ses vies de Gola antérieures? Le simple fait de résister de toutes ses forces à l'imprégnation? La rectrice à qui Odrad s'était adressée préféra ignorer l'interruption intempestive. Elle avait pris connaissance du dossier des archives quand Bayonda lui avait expliqué son rôle. Toutes les trois savaient qu'elles auraient peut-être à tuer l'enfant Gola. Possédait-il des pouvoirs dangereux pour elles? Les observatrices présentes ne le sauraient que quand Shiana, éventuellement, réussirait dans sa mission. Stretchy lui a expliqué, dit Odrad en s'adressant à Idaho, pour quelle raison il est ici. Que lui a-t-elle dit au juste? Répliqua Idaho d'un ton brusque qui lui attira un regard désapprobateur de la part des rectrices. Odrad répondit d'une voix délibérément contenue. Elle lui a appris que Shiana était chargée de rétablir sa mémoire. Et qu'a-t-il dit? Pourquoi n'est-ce pas Duncan Idaho? Elle lui a répondu la vérité. Il en profitait pour lui renvoyer la monnaie de sa pièce. Elle n'a pas menti, mais elle n'a rien révélé non plus. Elle lui a dit que Shiana connaissait un meilleur moyen et que vous l'approuviez. Regardez-le, il reste sans bouger. Vous ne l'avez pas drogué, j'espère. Il se tourna vers les rectrices en leur rendant leur regard désapprobateur. Nous n'aurions pas osé, répondit Odrad. Il est simplement prostré, tourné vers l'intérieur. Vous n'avez pas oublié que c'est une condition indispensable, j'imagine. Idaho se laissa aller en arrière dans son fauteuil, les épaules tombantes. Murbella ne cesse de répéter « Ce n'est qu'un enfant, ce n'est qu'un enfant », dit-il. Vous savez que nous avons une discussion là-dessus. J'ai trouvé votre argument tout à fait pertinent. Le Bachar n'était pas un enfant. C'est la personnalité du Bachar que nous rétablissons.
Je l'espère, fit Idaho en croisant deux doigts de sa main à demi levée.
Elle eut un mouvement de recul en voyant ses doigts. « Je ne savais pas que vous étiez superstitieux, Duncan. »«
J'adresserai une prière à Dour
si je pensais que cela pourrait y faire quelque chose. Il n'a pas oublié ce qu'il a souffert quand sa propre mémoire a été rétablie. Ne laissez pas percer trop de compassion, murmura-t-il. Renvoyez-lui sans cesse la balle. Obligez-le à regarder en lui-même. Il faut qu'il éclate. Ces mots étaient tirés de sa propre expérience. Abruptement, il déclara « C'est peut-être l'idée la plus stupide que j'ai jamais suggérée. Je devrais être aux côtés de Murbella en ce moment. »
« Vous êtes ici en bonne compagnie, Duncan. Vous ne pouvez rien faire pour aider Murbella. Regardez donc. »
Teg venait de se redresser d'un bond et fixait le plafond en s'adressant aux Oikom.
« Il n'y a personne qui viendra m'aider ? »
demanda-t-il d'une voix plus désespérée qu'il n'était prévu à ce stade.
« Où est Duncan Idaho ?»
Odrad posa la main sur son bras au moment où il se penchait en avant.
« Restez ici, Duncan. Vous ne pouvez rien faire pour lui non plus, pas encore du moins. »«
Personne ne peut venir me dire ce qu'il faut faire ?»
demanda de nouveau la petite voix flûtée et angoissée.
« Que va-t-on me faire ?»
Shyanna attendait ce moment pour entrer par une porte dissimulée dans la cloison derrière Teg.
« Me voici, »
dit-elle. Elle ne portait rien d'autre qu'une robe bleu pâle de voile arachnéen, presque transparent, qui lui collait au corps tandis qu'elle opérait un mouvement tournant pour faire face à Teg. Il était bouche bée. Ça, une révérende mère? C'était la première fois qu'il en voyait une vêtue ainsi.
« Vous allez rétablir ma mémoire ?»
Doute et désespoir dans sa voix.
« Je vais t'aider à la retrouver toi-même. »
Tout en parlant, elle avait laissé glisser sa robe au sol et l'avait écartée du pied. Elle gisait là, comme un grand papillon bleu ciel.
« Que faites-vous ? »
demanda Teg en la regardant fixement.
« Qu'est-ce que je fais d'après toi ?»
Elle s'assit à côté de lui et posa la main sur son pénis. Teg pencha la tête en avant, comme si quelqu'un avait appuyé brusquement sur sa nuque, et contempla l'érection naissante au milieu de la main.
« Pourquoi faites-vous cela ? Tu ne le sais pas ? Non ? Le Bachar le saurait, lui ?»
Il leva les yeux vers le visage si proche du sien.
« Vous le savez aussi ? Pourquoi ne voulez-vous pas me le dire ? Je ne suis pas ta mémoire. Pourquoi fredonnez-vous ainsi ?»
Elle posa ses lèvres sur le côté de sa nuque. Les observateurs entendaient clairement le fredonnement. Murbella appelait cela un intensifiant dont l'effet de rétroaction lié à la réponse sexuelle devenait de plus en plus fort.
« Que faites-vous ? »
C'était presque un glapissement qui lui avait échappé, tandis qu'elle le soulevait pour l'installer à califourchon sur elle. Elle se mit à osciller lentement d'un côté puis de l'autre, tout en lui massant le bas du dos.
« Répondez-moi, bon sang !»
C'était un vrai cri cette fois. « D'où vient ce bon sang ?» se demandait Odrad. Shyanna le glissa en elle.
« Voilà ta réponse !»
La bouche de Teg forma un « oh » silencieux. Les observateurs virent Shyanna se concentrer sur le regard de Teg, mais elle le surveillait avec d'autres sens également. Guettez la contraction de ses cuisses, les signes de vagotonie et principalement l'assombrissement des aréoles. Quand il parviendra à ce stade, maintenez-le ainsi jusqu'à ce que ses pupilles se dilatent.
Imprégnatrice !
Le cri de Teg avait fait sursauter tout le monde. Il tambourinait du poing sur les épaules de Shyanna. Derrière la baie de vision, les observateurs notèrent le frémissement spasmodique de ses paupières, tandis qu'il se balançait d'avant en arrière comme si quelque chose luttait pour sortir de lui. Odrad avait bondi sur ses pieds.
« Il se passe quelque chose, » dit-elle.
« Exactement comme je l'avais prédit, » murmura Idaho en demeurant assis. Shyanna était en train de repousser Teg pour échapper à ses ongles. Il se retrouva par terre et se retourna avec une rapidité qui stupéfia les observateurs. Un long moment, Shyanna et lui se firent face en silence. Lentement, il se remit debout. À ce moment-là seulement, il baissa les yeux pour examiner son corps comme s'il venait de le découvrir. Puis il reporta son attention sur son bras gauche, brandi devant lui. Il leva la tête vers le plafond, puis la tourna vers les murs de la pièce l'un après l'autre. De nouveau, il examina son corps.
« Par tous les démons d'en bas !»
Toujours la même voix flûtée, mais étrangement mûrie.
« Bienvenue au Gola Bachar !» lui dit Shyanna. « Vous avez essayé de m'imprégner ?» accusa-t-il furieux. « Vous croyez que ma mère ne m'a pas appris à me protéger de cela ?»
Une expression lointaine se dessina alors sur son visage, et il ajouta
« Gola ? Certains préfèrent vous appeler clone. Qui êtes ? Shiana.
Il pivota sur lui-même plusieurs fois, fouillant la pénombre des yeux. La pièce avait été choisie pour son entrée secrète. Aucune porte n'était visible.
« Où sommes-nous ? » demanda-t-il. « À bord du non-vaisseau que vous avez ramené sur Dune, juste avant d'y être tué. »
Elle respectait les instructions reçues.
« Tué. »
De nouveau, il regarda ses mains. Les observateurs eurent l'impression de voir tomber les écrans interposés par le Gola devant le reste de sa mémoire.
« J'ai été tué sur Dune ? »
reprit-il d'une voix presque plaintive.
« Héroïque jusqu'à la dernière seconde, »
lui dit Shiana.
« Mais les hommes que j'ai emmenés sur Gameux, ils sont tous... » Les honorés matriarches ont voulu faire de Dune un exemple. Ce n'est plus qu'un globe sans vie, carbonisé.
Les traits de Teg se tordirent en un masque de fureur. Il s'assit en croisant les jambes, un poing crispé sur chaque genou.
« Oui, j'ai appris cela en étudiant l'histoire du... mon histoire. »
De nouveau, il fixa Shiana. Elle demeurait assise, immobile, sur la natte. Ce plongeon vertigineux dans le gouffre de la mémoire ne pouvait être réellement apprécié que par quelqu'un qui avait subi l'agonie. Il importait à présent qu'elle garde un silence absolu.
« Qu'elle ne fasse rien, surtout, »
murmura Audra d'entre ses dents.
« Qu'elle laisse les choses évoluer d'elles-mêmes, qu'elle le laisse dénouer tout seul la situation. »
Elle fit un geste de la main adressé aux trois rectrices. Elles allèrent se poster devant le panneau d'accès, les yeux fixés sur la mer supérieure et non sur l'autre pièce.
« C'est une sensation bizarre de me considérer moi-même comme un personnage d'histoire, »
murmura Teg. Sa voix était toujours celle de l'enfant, mais l'intonation se faisait de plus en plus mûre. Il ferma à demi les paupières et prit une profonde inspiration. Dans la chambre d'observation, Audrade se laissa aller en arrière dans son fauteuil et demanda
« Avez-vous remarqué quelque chose de particulier, Duncan ?»
Quand Shiana l'a repoussée, il l'a retournée avec une rapidité dont je n'ai jamais vu l'équivalent, excepté chez Murbella.
« Il est encore plus vif que ça.
C'est possible. Sans doute parce qu'il est jeune et que nous lui avons donné une formation Pranabindu.
Quelque chose d'autre ? C'est vous qui nous avez alerté, Duncan. Un facteur inconnu dans les cellules marqueuses des Atreides. »
Elle jeta un coup d'œil aux rectrices qui l'observaient et secoua la tête. « Pas encore. »
« Maudite soit sa mère !»
reprit-elle à haute voix.
« Conditionnement hypnotique de protection contre l'imprégnation. Elle nous l'avait caché. »
« Mais voyez ce qu'elle nous a donné en échange, » déclara Idaho. « Un moyen beaucoup plus efficace de rétablir les souvenirs antérieurs. »«
Nous aurions dû nous en aviser avant, »
fit Audrade, furieuse contre elle-même.
« Si Tal prétend que les Tleilaxu utilisaient la douleur et la confrontation. » Finalement, je me demande,
pourquoi ne pas lui poser directement la question ?
Ce n'est pas si simple.
Nos diseuses de vérité ne sont pas sûres de lui. Il ne laisse rien percer.
À quel moment l'avez-vous étudié ?
Dar. Oubliez-vous que j'ai maintenant accès aux archives des Oikom ?
Je sais, mais...
Bon sang, occupez-vous un peu plus de Teg. Regardez-le. Que se passe-t-il ?
Audrade se raidit en reportant son attention sur l'enfant. Celui-ci avait levé la tête vers les Oikom avec une expression d'une terrible intensité. C'était comme s'il se réveillait au beau milieu d'un conflit, secoué par la main d'un subordonné. Quelque chose requérait son attention. Il se revoyait assis à son poste de commandement à bord du non-vaisseau, Dar debout à côté de lui, une main posée sur sa nuque. Que faisait-elle ? Elle le grattait ? Il y avait quelque chose d'urgent à accomplir. Mais quoi ? Son corps était une source de sensations bizarres. Gameux. Et maintenant il se trouvait sur Dune, et des souvenirs différents lui revenaient peu à peu. Son enfance au chapitre, Dar qui était. D'autres souvenirs se mettaient en place. Elles ont voulu m'imprégner.